Je vais vous passer la parole tout de suite. Il y a encore des chaises libres ici et là. S'il y a des gens qui sont assis, vous mal assis. Pardon? Ouais, si vous avez une chaise vide à côté de vous, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas derrière.
J'en ai une à côté de moi. Moi.
Là, je vais la prendre. Celle-là, je vais la prendre. Non, il y en a une là, il y en a une là. N'hésitez pas à venir, il y en a une là. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais vous passer la parole. On va faire circuler. À faire circuler le micro et François Ruffin profitera de vos questions pour évoquer d'autres pistes et d'autres expériences qu'il a menées.
Oui, bonjour. Je suis assez soulagé de votre dernière phrase, en fait, sur l'idée que des fois la petite bourgeoisie était vraiment en retard par rapport aux classes populaires. Parce que là, sur l'exposé que vous nous avez fait, je suis un peu déçu, en particulier du début, sur les restructurations de dettes. C'est-à-dire que finalement, si on prend la situation, 80% de dette, enfin, ou 90% en France, c'est rien. À la fin, à l'après-guerre, en 1945, les démocraties occidentales avaient beaucoup plus de dettes. Et jamais il a été question de faire la révolution en faisant une restructuration de dette ou de choses comme ça. Seulement, on avait une monnaie, chacun avait sa monnaie, et l'État était financé par sa banque centrale, et donc il ne payait pas de taux d'intérêt sur ses dettes, et grâce à l'inflation, forcément, les dettes ont disparu, mais sans faire de révolution ou quoi que ce soit, sans attendre qu'on ait un bloc social suffisamment, enfin que la situation soit tellement dégradée pour qu'on fasse la révolution pour supprimer les dettes. C'est très simple, la situation est très simple. Pourquoi vous nous dites ça? Parce qu'en fait, vous ne voulez pas envisager la sortie de l'euro a priori. Enfin, vous l'avez envisagé à la fin. Mais le discours sur l'annulation de la dette est un discours idéologique pour dire non, on va régler la question dans l'euro. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les Allemands vont être d'accord. Les Allemands ne seront jamais d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'il faut vraiment abandonner le discours sur l'annulation de la dette, qui est un discours d'attaque, et aller vers des discours du type MPEP, le Mouvement pour l'éducation populaire, votre concurrent sur la scène. Moi, je ne suis pas...
Non, on n'a pas de concurrent. Non. je vous rassure.
Non, mais c'est une scission. C'est une scission
d'attaque. Éventuellement des gens qui ne voient pas la société, ouais. La vie comme nous. Mais
non, mais c'est une scission d'attaque, le MPEP. Et donc, tu prônes la sortie de l'euro, et clairement, les classes populaires seront réceptives à ces discours-là. Et il vaut mieux sortir de l'euro que réplier les dettes, parce qu'en fait, politiquement, ça sera beaucoup plus simple à mettre en place. Voilà.
Je ne sais pas si on prend plusieurs questions à la suite. 4-5.
Bonjour. Donc, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui qui vient de s'exprimer. Parce qu'en France, aujourd'hui, il y a 1 million de restructurations de dettes. Moi, je travaille dans une association qui gère beaucoup de dossiers de surendettement. Et dans le cadre du dossier de surendettement, on restructure la dette d'à peu près 1 million de foyers français, dont 200 000 bénéficient d'un effacement des dettes. Donc, comme quoi, c'est possible. Oui, non, mais là, je redescends au niveau des individus. Et donc, ce qu'on fait au niveau des individus, même François Bayrou disait, et même Jean-Louis Borloo disait que c'était possible de le faire au niveau des États. Donc, moi, restructurer les dettes ou annuler des dettes, je pense qu'on peut le faire aussi bien pour des États que pour des individus. Parce que si on multiplie des individus par 1 million, ça fait beaucoup de restructuration de dettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense qu'on doit pouvoir aussi se réapproprier l'économie. Moi, je rêve de créer une banque locale. J'en ai parlé à une réunion à la mairie de Nanterre avant Noël. Et j'ai des idées, si ça intéresse certains d'entre vous, je suis partant pour le faire. Voilà. C'est très compliqué en France de créer une banque, mais pour autant, je pense qu'on peut le faire, quitte à s'appuyer sur une autre banque au départ. Voilà.
Merci. Allons-y.
Marie Scamborde, je fais suite à monsieur rêve de créer une banque locale, mais l'annulation de la dette est possible, mais on peut aussi trouver force et énergie dans les réalisations de monnaie locale et de fondation de monnaie locale. Je pense que là, je peux vous faire un petit topo sur le sol violette de Toulouse. Là, ça, Ils sont environ un millier et ils fonctionnent avec la presque bientôt, s'ils font leurs preuves, s'ils continuent à très bien faire leurs preuves comme c'est le cas, avec la bénédiction du trésorier payeur général du Lot-et-Garonne, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que ça donne de l'air, ça fait respirer vachement le 7 euros unique, 7 euros qui nous pèse. Voilà. Alors, bon, ça fait, c'est comme une espèce de système de contrebalancement. Je pense que ce n'est pas du tout inintéressant à envisager de développer hein, partout. Même en Île-de-France. À qui la
Merci.
Suite
Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque d'ailleurs?
Deux petites questions. La première, je pense qu'un terrain de combat important et qui ne doit pas être laissé à Madame Le Pen et au Front National, c'est celui qui a déjà été abordé, c'est de la sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, le seul parti qui dit haut et fort il faut sortir de l'euro, c'est le FN. Il serait temps que certains partis de gauche aussi se penche sur cette question. Et il serait temps aussi de ne pas laisser non plus la rhétorique, qui est quand même maintenant une réalité dont il faut se saisir, qui est que peu ou prou, l'UMP ou le PS font à peu près la même politique économique. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'interdisent de dire ça parce que, quelque part, c'est la thématique du tous pourri, et on a peur que ça fasse le jeu du FN. Je ne crois pas que ça fait le jeu du FN, et je crois qu'il faut que les gens comprennent que finalement ces gens ont fait les mêmes études, ils croient les mêmes choses, les mêmes doctrines, ils sont dans la même pensée unique, ils lisent les mêmes journaux, ils vont aux mêmes soirées. Et donc ils font à peu près la même chose. Donc je pense qu'il serait bon, parce que quand on vous entend dire, et je suis tout à fait d'accord sur le protectionnisme, le problème c'est que le protectionnisme, on peut dire c'est bien, ça offre des solutions, et j'en suis persuadé, mais enfin le PS ne se saisira jamais de ces solutions. Ils sont tous persuadés que c'est la fin du monde, comme d'ailleurs leur ami Pascal Lamy, chef de l'OMC, qui exactement tient les mêmes discours que Madame Parisot sur il faut attention, faire très attention au protectionnisme, parce que le protectionnisme, ça donne le nazisme, ça donne la guerre dans toute l'Europe, enfin tout ce genre de délire qu'il est temps de démonter publiquement, haut et fort, en expliquant aux gens que finalement... Le PS, on appelle ça la gauche, mais enfin, quelle est la différence entre la droite et la gauche aujourd'hui? Je parle de la gauche de gouvernement et de la droite de gouvernement. C'est sur le sociétal. Alors, sur le mariage gay, c'est très bien, et je suis pour, et c'est une avancée. Mais enfin, ce n'est pas avec ça que les classes populaires vont avoir des fins de mois moins difficiles. Et par contre, un petit truc sur lequel je n'étais pas d'accord, quand vous dites, oui, il suffit d'aller chercher, finalement, de reprendre les biens publics là où ils sont, par exemple les autoroutes. Ça me semble être un peu de l'esbrouf et vendre des solutions un peu faciles qui ne sont pas applicables. Je veux dire, si on dit à Vinci on reprend les autoroutes, combien Vinci va mettre de gens au chômage? Alors moi aussi, je pense qu'il ne fallait pas le faire, mais enfin, il y a des irréversibilités qui se créent. On ne peut pas récupérer ce qu'on veut, comme on veut, aussi facilement que ça.
Tu réponds, François?
Oui, Jean-Louis Michniak, membre du bureau d'attaque 92, j'habite Colombes. D'abord, un grand merci à François pour toutes ses explications, émaillées d'anecdotes, émaillées également par un ton plaisant qui permet de faire passer des choses difficiles d'une manière ludique et d'une manière agréable. Et ça, ce n'est pas rien dans la communication. Merci encore, puis à tous ceux qui ont organisé ce débat, qui a l'air d'être bien parti et qui me touche beaucoup au point de vue de l'importance de l'assistance. Je suis extrêmement surpris, je suis même touché agréablement. Juste pour dire une chose également, que quand on ne veut pas suivre les règles du FMI, il y a également d'autres pays qui ont pris évidemment ces sentiers battus, entre guillemets, c'est l'Argentine. Hein, donc. Et puis un dernier point, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une pratique de Pavlov, c'est-à-dire que parce qu'une chose a été dite par un adversaire, eh bien, ou l'éviter, ou dire le contraire systématiquement. Et c'est vrai que, comme on dit plusieurs personnes, plusieurs camarades, plusieurs amis, ça peut être finalement un amoindrissement, une réduction dans la force de nos propositions et dans la force de notre production intellectuelle. Voilà, merci.
Oui, bonsoir. Bon, merci à François Ruffin pour son exposé. La question que je vais lui poser là, va me, j'espère, permettre de développer un petit peu un point qui, je dirais, un peu comme d'habitude, reste obscur, aussi bien à Attac que dans beaucoup d'autres associations. C'est que nous avons développé là plein de solutions, hein, protectionnisme, sortir de l'euro. Moi, je pourrais ajouter fermer les paradis fiscaux et voir du côté des évasions fiscales des grandes entreprises. Bon, tout ça est bel et bon. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais comment les imposer ? Et c'est là, en général, où il y a un point aveugle. Non, ce n'est pas l'éducation populaire qui fera fléchir M. Bernard Arnault ou le monsieur qui est là. Leurs privilèges, ils ne les laisseront pas tomber comme ça, en étant un jour touchés par la grâce et par le sentiment de l'intérêt général. Leurs privilèges, ils les abandonneront que si on les leur prend. Voilà, Stendhal disait, les peuples n'ont de liberté que celles qu'ils ont le courage d'arracher. Voilà. Et donc, moi, ma question, elle est précise, je veux dire, c'est comment établir ce rapport de force, sur quelles entités politiques s'appuyer, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit que le Parti socialiste jamais ne se résoudrait aux solutions que nous proposions. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire comme Blanqui, et maintenant il nous faut des armes ?
Bon, en préalable, je voudrais faire une déclaration de modestie. Moi, je suis ni sociologue, ni économiste, ni historien. Je suis rien du tout, ni politologue. Je suis journaliste, c'est-à-dire bon à rien et touche à tout, quoi. Voilà. Et puis, je suis pas Nostradamus non plus. Maintenant, je sais pas, quelques débuts de réponse. D'abord, ça, tout dépend. Dans toutes ces questions-là, il y a une seule chose qui importe, c'est le rapport de force. Si le texte est passé cette nuit, c'est parce qu'il n'y a pas eu une manif importante. Voilà, là, il y a eu une absence de. Le rapport de force n'a pas pesé. Il a peut-être pesé sur le terrain de l'élection, mais il n'a pas pesé dans la négociation de cette nuit. Aucune des mesures qu'on évoque ne peut être prise en dehors d'un rapport de force. En dehors d'une situation historique particulière, c'est-à-dire le sentiment, comme ça peut se produire dans un certain nombre de pays, qui n'est pas le cas en France. Aujourd'hui, la France emprunte à 1%, taux d'intérêt, entre 1 et 2%, ça dépend des moments. Pourquoi on s'embêterait à vouloir se désendetter alors qu'on peut s'endetter à 1%? Je veux dire, moi, de manière cynique, je dirais, gavons-nous. Gavons-nous quitte à ne plus payer ensuite. Mais aujourd'hui, de toute façon, la situation historique sur le marché des prêts fait qu'il n'y a pas, aujourd'hui, au présent, de questions urgentes, impératives, de poser, de savoir si on doit sortir de l'euro, si on doit... Je parle là pour, en empruntant à 1%. La question, c'est... Quand on arrive, et que c'est la Grèce, quand on arrive dans une situation comme est celle de la Grèce, comme est celle de l'Espagne, comme est celle du Portugal, comme est celle de l'Irlande, ou comme un contre-exemple l'Islande, quelles sont les idées qui dominent ? Quelles sont les idées de rechange qui sont prêtes à ce moment-là ? Et quelles sont les idées qui peuvent s'appuyer sur des partis, sur des forces politiques ou sur des forces syndicales, sur des forces sociales existantes, quand la crise survient. Moi, je pense que c'est ça la question. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense, c'est de se dire, ben voilà, il y a un certain nombre d'idées qui ne nous sont pas interdites. Quand la crise, si jamais une crise politique survient, nous avons des idées de rechange. Alors, je vais répondre, je le redis, tout ce que je peux dire, il y a un certain nombre de choses où j'ai creusé mes sources et puis tout ça, là je vais quand même essayer de ne pas raconter trop de conneries, mais en gros je ne suis pas non plus un expert. Moi, sur le terrain de la monnaie, je suis hostile au fétichisme de la monnaie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de, je suis plutôt favorable, je serais plutôt favorable éventuellement à une sortie de l'euro. En tout cas, si on était en Grèce, il y aurait la nécessité de sortir de l'euro, parce que c'est quand même l'un des trucs qui va les plomber durablement. Maintenant, l'Islande avait sa propre monnaie et elle s'est sortie de sa panade aussi par des banqueroutes, aussi par du protectionnisme, aussi par un certain nombre d'autres instruments que seulement une dévaluation. L'Islande a fait des dévaluations, qui est un instrument économique important, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a conjugué un certain nombre d'outils. Donc moi, pourquoi pas, mais pas de fétichisme de la monnaie. C'est pas par là que tout passe. Tout comme je pense que le protectionnisme ou les taxes douanières, c'est un outil qui est important, ça n'est pas le seul outil. à mobiliser dans ces cas-là. Je vous ai parlé des banqueroutes. Sully, au moment où il remet en place les finances de l'État, il mène un certain nombre d'autres politiques parallèles à ça. Donc il ne s'agit pas de penser qu'on aurait un outil, un instrument économique clé. Mais effectivement, la question centrale que pose monsieur, c'est comment on fait pour que ça se mette en pratique. Aujourd'hui, on n'a pas l'effort social pour le mettre en pratique. Bon, moi, je suis proche du Front de Gauche, personnellement. J'en suis pas membre, mais je suis personnellement proche du Front de Gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas le Front de Gauche qui domine. On peut toujours dire que le Parti Socialiste n'est pas la gauche. Mais aujourd'hui, bah voilà, dans la gauche, ce qui se nomme la gauche, c'est néanmoins encore le Parti Socialiste qui domine. Comment faire ? Je sais pas, j'ai pas des questions, là. Comment faire que pour quand la situation de crise survient, comme elle est survenue en Grèce, on n'ait pas un blocage ? Parce que la décantation de Syriza a quand même mis du temps, compte tenu de leur situation, pour qu'on n'ait pas un blocage à l'intérieur des forces de la gauche de gauche. Et déjà, il me semble que là, on a un pas d'avance sur la situation grecque, puisqu'en Grèce, il y a une forte division entre le parti communiste traditionnel et puis Syriza. Et deuxièmement, ils ont bloqué la situation entre le PASOK et les forces de gauche en Grèce, à savoir qu'il pouvait y avoir éventuellement une fracture à l'intérieur du PASOK avec un certain nombre de députés qui aillent rejoindre ou qui préconisent les politiques qui avaient une oreille dans la gauche critique, et que ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des crispations. Bon voilà, il faut entrer, si jamais on doit entrer dans une situation de crise, il faut qu'on puisse y entrer sur le terrain politique avec déjà une force existante, en espérant qu'elle n'explose pas d'ici là, qui serait éventuellement le front de gauche, et puis en se disant que pour moi, la barrière entre la droite et la gauche, elle passe à l'intérieur du Parti Socialiste. C'est ça qui rend pour moi la situation compliquée. C'est que je pense qu'il y a un certain nombre de membres du Parti Socialiste, y compris, non pas dans les dirigeants, mais dans les structures, qui sont réellement à gauche. Je veux dire, moi, j'ai plaisir à rencontrer Filoche. Alors, il m'amuse dans la manière dont il calcule en permanence ses motions et puis tout ça. Mais enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est honnêtement, sincèrement de gauche. On peut considérer qu'aujourd'hui, il s'égare en étant au Parti Socialiste, que ce n'est pas la bonne tactique, la bonne stratégie. Mais n'empêche que si une situation de crise survient, il faut compter aussi avec l'aile gauche du Parti Socialiste, qui ne fera que s'amplifier. Parce que là, si Hollande il continue comme ça, il va se prendre un mur politique, un mur électoral. À la limite, on a l'impression qu'il s'en fout. C'est ça le problème. On a l'impression que peu importe. Mais là, à continuer comme ça, vraisemblablement, les municipales de 2014 vont être quand même très très compliquées pour le Parti Socialiste. Voilà. Donc là, on va rentrer dans des... Et donc, il y a un certain nombre d'élus, puisque le Parti Socialiste est essentiellement un parti d'élus, qui vont se mettre à poser des questions sur la politique macroéconomique qu'on est en train de mener, et ainsi de suite. Bon, je dis que, dans ce contexte-là, l'un des objectifs qu'on doit avoir, c'est que nos idées... elles soient mieux structurées. Je pense que, y compris dans le programme du Front de Gauche, elles ne sont pas claires. Par exemple, j'ai évoqué la question du protectionnisme, mais il y a une grande timidité sur cette question-là. La question de la sortie de l'euro, elle doit être posée, elle doit être tranchée en fonction d'une situation historique. Moi, je suis toujours juste comme ça. Je me positionne toujours en fonction des situations historiques. La banqueroute, je ne suis pas pour la banqueroute dans l'absolu, dans l'idéal, mais en fonction d'une situation historique. Le protectionnisme, je ne suis pas pour le protectionnisme dans l'absolu, mais en fonction d'une situation qui se présentera ou qui ne se présentera pas. Je donne souvent l'exemple de la sécurité sociale. Là, j'ai entendu banque locale, initiative locale. Je dois dire que je suis sceptique sur la capacité de ces initiatives, même multipliées, à peser sur la finance. Bon. Mais l'exemple qui est celui de la sécurité sociale est quand même intéressant. Au départ, c'est quoi ? C'est-à-dire sur la conjonction de ce qui se passe en haut et de ce qui se passe en bas, les forces d'en haut et les forces d'en bas dans la transformation. Au départ, c'est quoi la sécurité sociale ? Ce sont des mutuelles. Comment se créent les mutuelles ? On a par exemple un exemple en Savoie, une usine où il y a un accident du travail qui fait 4 morts. Il y a un délégué qui n'est pas délégué encore, qui sort, qui s'appelle Antoine Croizat, qui appelle tout le monde à la grève en 1904, il me semble. À ce moment-là, tout le monde sort, fait grève, ça dure un paquet de jours. Il est reconnu comme étant délégué syndical. Et par ailleurs, il y a l'autorisation d'avoir une caisse d'assurance pour la veuve, pour les veuves des accidentés. Et puis, bon, lui est licencié, mais voilà. Son fils, c'est Ambroise Croizat, dont je vais reparler. Mais Antoine, donc là, on est... si on avait fonctionné qu'avec des mutuelles, en revanche, en 1940, il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont couverts par l'assurance sociale ou par l'assurance vieillesse. Vous voyez ? On n'en est qu'à un tiers. Il y a quelque chose qui se passe entre-temps. Il y a, pendant la guerre, il y a la rédaction du programme du Conseil national de la résistance, qui parle d'un vaste plan de sécurité sociale. Moi, ce que je dis toujours, c'est le miracle, c'est pas qu'il y a eu un beau programme, parce que des programmes, la gauche en avait eu plein dans son histoire, mais c'est qu'il était partiellement appliqué. À la libération, et il n'est pas appliqué par hasard, il est appliqué parce qu'il continue à y avoir cette conjonction, il va y avoir cette conjonction entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique ? À l'automne 1945, ce sont les partis de gauche, on appelle ça l'Assemblée écarlate. L'Assemblée constituante de 1945 est constituée majoritairement de socialistes et de communistes. Du coup, ça amène Ambroise Croizat comme ministre des Travailleurs au gouvernement. Mais là, il ne faut pas croire que les réformes, elles sont passées de la sécurité sociale comme ça. Il y a eu un énorme travail. Des cahiers de doléances qui ont circulé dans le pays, des réunions le 14 juillet 1945 pour exiger cette sécurité sociale, on va refaire des états généraux et ainsi de suite. Dans tous les départements, il y a une mobilisation. Il y a un poids de la CGT et un poids du Parti communiste. Ambroise Croizat, il dit, bon ben voilà, moi je vais mettre en place la sécurité sociale. Au sein du gouvernement, il y a René Pleven, qui est un ministre MRP de droite, qui dit, oh, mais attendez, oui c'est une bonne idée, mais c'est pas le moment, vous avez vu le bazar dans la France et puis tout ça. Non, c'est pas le moment qu'il faut le faire, il faut attendre encore un peu. Parce qu'il sait, René Pleven, que quand la fenêtre de l'histoire s'ouvre, elle se referme assez vite. Donc il suffit qu'il attende, cette opportunité va se refermer, et puis on sera tranquille avec la sécurité sociale. Mais Ambroise Croizat, il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous faites ça, on déclenche la grève générale. Et il pèse à l'intérieur du gouvernement. On sait qu'il y a tout ça, et qu'il y a éventuellement des maquisards qui sont sortis des maquis avec des fusils. Enfin, ça peut redevenir le bazar assez rapidement. Donc, en 6 mois, la sécurité sociale entre dans les faits. Mais elle entre dans les faits aussi, parce qu'Ambroise Croizat va s'appuyer sur tous ses réseaux locaux, d'abord pour faire construire concrètement les caisses de sécurité sociale, parce que vous savez, maintenant on voit ces trucs, ces immenses bâtiments, à Amiens c'est un immense bâtiment de verre, mais au départ ça a été des petites baraques que les gens ont été construire sur leur temps libre le soir. Et il fait ce que les gens n'étaient pas habitués à faire, il fait ramasser dans les usines les feuilles de soins pour les faire collecter. Donc voilà, je pense, une conjonction, donc il faut qu'il y ait les idées. Dans le programme du CNR, il y a l'idée. Il y a l'idée qui s'appuie sur déjà un certain nombre d'expériences qui ont existé, mais par ailleurs, ensuite, on continue à... Le haut s'appuie sur le bas, et il ne peut pas y avoir de transformation sans, à mon avis, qu'on ait la conjonction entre les deux. Même un Mélenchon élu, si jamais il n'y a pas une animation vive sur le terrain, il n'y a rien qui se passera, parce que la droite, les forces conservatrices, elles continuent à peser. J'ai parlé du FMI, j'ai parlé du MEDEF, mais ils font un travail considérable. Moi, j'étais à Bruxelles à la mi-décembre, mais le poids de toutes les organisations patronales et simili-patronales, lobbies financiers et puis tout ça, qui sont revenus constamment concernant l'union bancaire, je peux vous raconter après ça en détail si vous le souhaitez, mais qui devait être un truc pour réguler et qui se retrouve à déréguler, c'est-à-dire qu'il y a les critères de Bâle sur le terrain des banques qui s'appliquent à l'échelle internationale, l'Union européenne a mis en place des critères qui sont en dessous des critères internationaux. Pourquoi ? Parce que depuis l'origine du projet jusqu'à sa signature début décembre ou fin novembre, il y a eu un poids constant. Là, Hollande, il a autour de lui, mais il l'est lui-même, mais des hauts fonctionnaires qui appartiennent à la grande bourgeoisie, il a un certain nombre de forces qui continuent à peser. Et donc, même un Mélenchon laissé dans ce contexte-là, je pense que ça ne donnerait pas grand-chose. Il faut qu'il y ait absolument la conjonction entre les deux. Alors après, je peux vous faire un baratin sur rallier les forces, comme on fait pour rassembler la petite bourgeoisie intellectuelle et les classes populaires. Mais bon, je vais laisser repasser une série de questions.
Je crois qu'il y avait une question, voilà, au fond.
Oui, bonsoir. Je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit, mais je le formulerai un petit peu autrement. J'étais contre Maastricht, contre toutes les étapes de la construction européenne, mais c'est fait. Et je ne suis pas sûr qu'en se basant sur l'idée de sortir de l'euro ou sortir de l'Union européenne, on rassemblera les masses. Je suis même persuadé du contraire. Par contre, il y a des mots d'ordre qui peuvent faire l'unité et qui sont contradictoires avec les institutions européennes, avec l'esprit du néolibéralisme ambiant. Et c'est par exemple l'idée des nationalisations. Hein ? Nationalisation des entreprises qui licencient, il suffit de dire ça pour que tout de suite il y ait une levée de bouclier en France. En Angleterre, les conservateurs et les libéraux ont fait des nationalisations pour des entreprises en difficulté, mais provisoires, hein, comme celle de Montebourg, et puis avec indemnisation. Les capitalistes ne perdent aucune plume dans cette affaire-là. Aux États-Unis, Obama aussi a fait ça. Ce sont des mesures capitalistes, ce genre de nationalisation. Mais en France, nationalisation, ça évoque des choses beaucoup plus sérieuses, celle de la libération consécutive au programme national, au programme du Conseil national de résistance, ou plus récemment, celle de Mitterrand en 80-82. Et ça, les capitalistes n'aiment pas, parce que d'abord, ce n'est pas provisoire, même si dans les faits, elles ne sont pas forcément éternelles. On l'a vu, la plupart de celles qui ont été faites aussi bien par Mitterrand que celles qui ont été faites en 1945 par De Gaulle ont été annulées par des privatisations. Mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose que des nationalisations provisoires à la Cameroun. Et si on annonce ça, d'abord, il y a beaucoup de patrons qui se diront bah, « Non, tant qu'à faire, je préfère garder mon personnel, même si je fais beaucoup moins de profit, que d'être nationalisé. » Surtout si on parle de nationalisation sans indemnité, parce que c'est ça qu'il faut réclamer. Parce que les capitalistes ont fait des profits pendant des années, des décennies, ils les ont placés de 36 façons dans 36 pays. Il n'est pas question de leur rembourser ce que valent encore les entreprises qu'ils ont en France pour leur permettre de placer leur fric ailleurs, dans d'autres entreprises, voire en France d'ailleurs, comme c'était fait en 82. Les gens qui ont été indemnisés pour leurs entreprises en 82, ils ont réinvesti en grande partie en France dans d'autres sociétés existantes ou qu'ils ont créées pour l'occasion. Donc je crois que en annonçant des mesures comme ça, et en les appliquant, si on est au pouvoir, ou si la pression fait en sorte que le gouvernement soit obligé de les appliquer, à ce moment-là, on se heurte de front aux institutions européennes. Et à ce moment-là, il y aura peut-être la menace, ah, mais si vous faites ça, on vous exclut de l'Union européenne. Bon, ben, chiche. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre la question de la sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. Alors, en mettant en avant des mots d'ordre qui soient repris, qui soient populaires, hein, les nationalisations, les sondages l'ont montré ces dernières semaines, les Français sont majoritairement pour. Alors les modalités, ça, c'est à discuter. Hein, c'est pas très clair pour tout le monde. Mais je crois que c'est de cette façon-là, et non pas à la façon du POI ou à la façon de Dupont-Aignan, ou de Marine Le Pen, parce que si Marine Le Pen fait des bons scores, c'est pas parce qu'elle propose de sortir de l'euro, c'est malheureusement pour plein d'autres choses.
Merci, je crois qu'il y a une question juste à côté de vous, une dame juste à côté de vous.
Bonjour, moi je voudrais dire que, enfin, je voudrais aborder le problème un peu différemment. Dans ce long combat du capital et du travail qui dure depuis des millénaires et qui risque de durer encore un petit moment, il y a des batailles. Et si on regarde à l'heure actuelle, effectivement, depuis 30 ans, on est en train d'en perdre des batailles, et notamment les deux essentielles, puisqu'au bout du compte, qu'est-ce qui est important? C'est l'argent et c'est la maîtrise du travail. Et là, il me semble que... Alors bon, sans compter que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une petite aparté, sur le fait que si on met les classes moyennes et les classes populaires, on est majoritaire. Et dans une démocratie, c'est important. Alors donc, effectivement, il faut essayer d'y aller tous ensemble. Ensuite, il faut essayer de gagner des batailles importantes, donc attaquer sur les domaines importants qui sont l'argent et qui, effectivement, récupérer le travail. Alors là, bah, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Et je pense que si, effectivement, il y a une stratégie claire, après les structures qui pourront, les organisations qui pourront éventuellement les porter, c'est peut-être moins important. Parce que l'important, c'est qu'effectivement, l'ensemble d'un pays, enfin au moins une majorité dans un pays, détermine une stratégie. En ce qui concerne l'argent, ce sont les banques. On a laissé les banques faire n'importe quoi. Ça leur a permis de créer du capital, de l'investir ensuite dans des multinationales ou ailleurs, et effectivement de s'approprier les entreprises et de s'approprier le travail, encore plus et de façon beaucoup plus prégnante sur les gens qui travaillent. Donc effectivement, il y a les banques. Les banques, vous en avez parlé tout à l'heure, on pourrait effectivement légiférer et au moins rétablir les règles prudentielles qui existaient, parce que pour l'instant c'est très dangereux, ça peut être encore plus dangereux si ça se casse vraiment la figure. C'est pour ça que pour l'euro, à la limite, peut-être, de toute façon ça se cassera peut-être la figure tout seul et il vaut peut-être mieux pas en avoir la paternité et la responsabilité. Il vaut mieux la laisser aux gens qui effectivement ont le mal monté. Donc, moi, je pensais peut-être que les deux priorités pourraient être d'essayer d'imposer une législation sur les banques, sur le système financier, peut-être au point de vue national, au moins on se protégerait, si on n'arrive pas à le faire de façon européenne ou mondiale, au moins déjà on pourrait certainement le faire en France, ou au moins déjà se battre tous là-dessus. Et puis l'autre, effectivement, c'est de trouver, de réfléchir sur le travail, puisqu'en définitive, qui est-ce qui crée, qui est-ce qui dirige, quels sont les types d'entreprises ? Les entreprises publiques, il n'y en a plus beaucoup, les multinationales, et après les PME, enfin après les entreprises plus petites. Il y a certainement des choses à réfléchir là-dessus, mais je ne vais pas accaparer trop. Pardon.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre intervention ?
Merci. Je voudrais savoir, supposons qu'il y ait une gigantesque mobilisation, tout le monde en a marre, mobilisation dans toute la France, on va changer de régime, on veut, etc., etc. Il va y avoir des élections peut-être, je ne sais pas. Bon. Bref, ça gronde, ça monte, et ça y est, on sent que cette fois-ci, il y aura des gens qui sont vraiment disposés à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Alors, tous ces gens qui sont très clairvoyants, là, comme ceux que vous interrogez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tant qu'il est encore temps pour eux? Ils mettent tous leurs capitaux dehors. Et quand le peuple arrive au pouvoir, il n'y a plus rien, les caisses sont vides. Parce que tout vient de s'en aller, tout vient d'être exporté. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Merci, Eric.
Bon, moi, enfin, je pense que effectivement, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit en général. Je pense que c'est vrai qu'il nous faut beaucoup, beaucoup d'outils, et je crois aussi qu'il faut se préparer effectivement à un moment où ça ira encore plus mal, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en arrive pas à la situation d'autres pays actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour se préparer? C'est-à-dire que pour les gens, il suffit pas seulement qu'ils soient en colère, il faut aussi qu'ils soient peut-être prêts à gérer leurs affaires, non? Et on n'est peut-être plus tout à fait à la situation du 1945 où les gens avaient pris l'habitude de s'organiser, de se battre, de résister, etc. Maintenant, on est complètement anesthésié par la télé, par la pub, par la consommation, par toutes les choses qu'on a toujours envie d'acheter, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc voilà, on est devant quand même quelque chose de pas si facile que ça. Et quand vous parlez de l'Argentine, bah, l'Argentine, après tout, un des outils qu'elle a eu à sa disposition, c'était d'avoir sa propre monnaie avant le clash. Alors, moi, je pense aussi quand même qu'il y a des moyens, peut-être petits, d'apprendre aux gens à regérer des choses entre eux. Vous ne croyez pas à une banque, vous ne croyez pas à la monnaie locale, enfin, on voit que vous ne croyez pas trop à ça, mais je comprends bien, ce n'est pas du tout un truc qui va révolutionner tout. Simplement, ça apprend aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble, ça leur apprend à travailler ensemble, ça leur apprend à gérer ensemble, et peut-être que ça les apprendra, une fois que ce mouvement politique aura existé, bah, de pouvoir gérer les affaires. Je ne sais pas, enfin, c'est un complément un peu de ce que vous avez dit. Voilà.
Merci, on va repasser la parole. Ben, je vais en profiter, je peux poser une question aussi. Non, on parlait de moyens concrets, quelqu'un parlait de confronter le monde du capital et du travail. Donc j'ai entendu parler du comité d'intervention en Assemblée Générale, plus connu sous le nom de SIAG, je crois. Ouais, si tu peux nous en parler, et je vous laisse la parole.
Oui, non, pour continuer ce que disait Nelly et répondre à monsieur sur qu'est-ce qui se passe s'ils partent tous avec leurs capitaux. Ben, j'aurais tendance à leur dire ben, qu'ils s'en aillent avec leurs capitaux, puis nous on va recréer une nouvelle monnaie, nationale, locale, ce qu'on veut. Bon, les monnaies complémentaires, je suis d'accord que ça a par exemple beaucoup marché au Brésil. Hein, en 10 ans, il y a 10 ans, ils ont créé une monnaie qui s'appelle le Palmas. Il y a eu une présentation ici, il y a un ou deux ans, je crois, avec Patrick Vivret, il y avait un Brésilien qui est venu présenter ça. Aujourd'hui, il y a 50 monnaies locales, je crois, au Brésil, et qui sont validés et reconnus par la Banque centrale. Donc, si ceux qui ont les capitaux aujourd'hui en euros veulent partir avec leurs euros, comme vous disiez tout à l'heure, la constante ici, c'est nous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas partir. Et nous, on a, enfin, en France, il y a de quoi produire il y a de quoi nous nourrir, de nourrir les 60 millions de largement, puisqu'on exporte. Il y a de quoi nous nourrir, il y a de quoi nous vêtir, il y a de quoi tout faire en France. Donc si ceux qui ont l'argent aujourd'hui croient que parce qu'ils partent, on n'est plus capable de travailler et de s'auto-nourrir et de s'auto-vêtir, alors évidemment, on aura peut-être, comme dit Nelly, moins de télé, moins de caméscope et de magnétoscope, mais ce n'est pas ça qui nous fait grandir et nourrir. Donc la force de travail, elle est ici, elle n'est pas chez les banquiers. Voilà. Donc si on veut... Alors quand je disais créer une banque locale, vous disiez que ça n'allait pas faire peur aux banquiers. Pour autant, c'est en créant ces initiatives, et vous l'avez dit aussi, c'était un peu paradoxal tout à l'heure, parce que vous disiez que ces initiatives n'allaient pas leur faire peur, puis à la fois vous disiez que c'est en partant du bas qu'on allait recréer la force. Donc la force, c'est nous, il n'y en a pas d'autre. Donc il faut qu'on se réapproprie notre économie locale. Aujourd'hui, on est effectivement beaucoup trop dépendant d'Internet, des abonnements Orange, SFR ou Bouygues. Donc recréons de la force locale. Et de la bidoche, oui, c'est vrai aussi.
Merci.
François, tu veux encore une?
Je peux faire juste un petit commentaire avant que vous interveniez, ça ne va pas être très long. Vous parlez de rapport de force et en fait vous considérez que c'est finalement la chose essentielle peut-être pour faire bouger les choses. Et ce que j'entends ici donc avec la dernière intervention sur les monnaies locales ou monsieur sur quelque chose peut-être d'un peu plus fantasmé, c'est que finalement en s'interrogeant sur ces initiatives qui sont locales mais finalement on imagine qu'elles ne résolvent pas le problème, il y a une forme de résignation si vous voulez à tout changer. Et j'en ai deux exemples, finalement, c'est que deux pays qui sont dans des situations bien plus complexes que la nôtre, qui sont la Grèce ou l'Espagne, n'ont pas fait cette révolution. Elles ont accepté le diktat du FMI ou de l'Europe, et finalement, dans des situations bien plus complexes que la nôtre, les gens n'ont pas tellement bougé, finalement. Donc c'est une forme de scepticisme un peu...
Mais je voudrais dire autre chose après, mais je pense que, par exemple, je vais dire que s'ils partent avec leurs capitaux, Bernard Arnault, je veux dire, c'est mon ami, j'en reparlerai, mais bon, voilà, il a quand même fait la ruine de ma région, donc, enfin, en partie, il n'en est pas le seul responsable. Mais je veux dire, là, il décide de partir. On décide que ces vignes, que tous ces centres de production français, que ces marques, on va continuer à produire sous ces marques, c'est un suicide pour lui. Il faut être clair. Si on veut menacer Bernard Arnault, il peut se suicider économiquement. Soit il arrive à placer sa fortune, ce qu'il a en liquidité du moins, parce que la plupart des choses dans sa fortune, il ne l'a pas en liquidité, il l'a en possession. Il ne va pas partir avec son château IQM, je ne sais pas comment il part avec son château IQM en Belgique, avec ça sur le dos. Quoi. Mais donc voilà, je veux dire, si jamais on veut menacer Bernard Arnault, mais là ça veut dire sortir du légalisme, de toutes les contraintes juridiques, c'est clair, quoi. C'est de la menace politique, parce que le gouvernement sent qu'il a pour lui le rapport de force derrière lui, et ainsi de suite, et qu'il y est déterminé. Mais si on veut, là, en l'occurrence, on peut. Alors, puisque je parlais de Bernard Arnault, il me demande de parler du CIAG. Alors, le CIAG, c'est le comité d'intervention en Assemblée Générale, parce que je voudrais que vous deveniez actionnaire. J'ai des actions pour vous, voilà. Vous pouvez devenir actionnaire dès aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, encore une fois, ça, c'est pas quelque chose qui, en l'occurrence, va changer la face du monde. Mais il y a un lieu de confrontation entre le capital et le travail. Il y en a peu, finalement. Des endroits où les travailleurs peuvent rencontrer en direct leur PDG et les admonester. Il y en a pas tant que ça. Et les admonester éventuellement en public. Il y en a un, par exemple, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires. Je peux vous raconter, moi, puisque je suis actionnaire, j'ai une action LVMH, bien sûr, vous l'avez compris. Je surveille de près les activités de groupe, donc je reçois la lettre des actionnaires tous les trimestres, et la revue Aparté, qui est une revue d'art, qui met Modigliani en couverture, avec la tête de Bernard Arnault en page 2, parce que LVMH, Louis Vuitton et Hennessy, c'est le premier groupe de luxe au monde. Voilà. Donc comment je suis devenu actionnaire de LVMH ? Je suis devenu actionnaire parce que je me baladais dans le nord de la France, c'était au moment du traité constitutionnel européen d'ailleurs, et je me suis retrouvé dans une boîte qui s'appelait ECCE, entreprise de confection et commercialisation européenne, près de Maubeuge, où je suis tombé sur une dame qui s'appelle Marie-Hélène Bourlard. Je cite son nom parce qu'il y a comme ça un certain nombre de héros et héroïnes anonymes dans des entreprises en France qui se bagarrent tous les jours. Et là, elle avait affronté une délocalisation qui était la décision de... Ils fabriquaient des costumes Kenzo. Un costume Kenzo, en sortie d'usine, ça valait 80 euros, matière première et main d'œuvre tout confondu, à Poix du Nord, près de Maubeuge. C'était vendu 990 euros dans les magasins Kenzo. On allait vérifier avec les ouvrières, rue du Louvre à Paris. Bon, entre 80 et 990 euros, on va dire que ça laisse une marge appréciable, mais encore insuffisante, puisque la direction de LVMH avait calculé qu'en faisant fabriquer le même costume, non plus à Poix du Nord en Pologne, mais non pas à Poix du Nord près de Maubeuge, mais à Katowice en Pologne, on passerait de 80 euros à 40 euros. Vous voyez, donc aussitôt le calcul effectué, il restait à mettre en œuvre la solution industrielle comme il cause. Bon, Marie-Hélène Bourlard, elle n'arrêtait pas de s'en prendre au patron du sous-traitant qui s'appelait, je ne sais plus, Lucien Deveau. Voilà, il s'appelait Lucien Deveau. Vous connaissez Lucien Deveau? Non. Moi, personne ne connaît Lucien Deveau. Et je lui dis, mais alors, ça ne sert à rien de t'en prendre à Lucien Deveau. Personne ne le connaît. Ça ne va pas marcher ton histoire. Regarde ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, tu as le donneur d'ordre, c'est Bernard Arnault, c'est LVMH, premier groupe de luxe au monde, première fortune d'Europe. Si tu te mets à cogner sur lui, à mon avis, il ne va pas, trop apprécier. Oui, mais comment on fait? Bon, moi, j'avais rencontré un petit actionnaire peu de temps auparavant qui m'avait dit qu'avec une action, on arrivait à entrer en Assemblée Générale et que là, normalement, on avait le droit de poser autant de questions qu'on voulait. Ils étaient obligés de nous donner la parole. C'était dans les textes de loi et puis tout ça. Sinon, on pouvait faire annuler l'Assemblée Générale. Donc, je lui ai dit, ben voilà, il y a une solution. Allons-y, je prends une action. Elle passe à la poste. Et la postière qu'il la connaissait, Parti communiste et puis tout ça depuis. Puis les années 60, et puis la CGT, sa carte CGT imprimée sur le front, vous voyez. Bon, elle dit, mais qu'est-ce qui vous prend, Mme Bourlard? Ah bon, tout le monde a bien le droit de s'enranger dans la vie, quoi. Bon, donc, elle prend son action, on se retrouve en Assemblée Générale, et ils ne veulent pas nous donner la parole. Enfin, ils ne veulent pas. C'est qu'il y a trop de personnes qui veulent la prendre, donc pour que l'Assemblée Générale elle, se termine. Bon, moi, je suis plutôt du genre, il y a 3000 personnes, on est au carrousel du Louvre, c'est blindé de monde. Il y a des écrans géants, on ne voit même pas Bernard Arnault, bien qu'il est sur les écrans géants, on ne le voit même pas sur les écrans géants, tellement il y a de monde dans ce truc. Moi, je me vois mal aller mettre le bazar comme ça et tout ça. Bon, je me sens un peu mal à l'aise. Vous savez, c'est quand même dans le rapport de force, là, devant 3000 petits actionnaires, on ne sent pas très... Bon, il y a les vigiles, il y a tout ça. Bon, elle dit si, on y va. Elle fonce devant, elle fonce sur Bernard Arnault et elle commence à lui dire « Est-ce que vous êtes prêt à faire moins de bénéfices pour re-signer un nouveau contrat avec ECCE pour garder la production française ?» Parce que c'est 147 salariés qui vont être dehors. Alors là, Bernard Arnault répond « Elle crie, elle n'a pas de micro. » Donc elle crie très fort. Lui, en revanche, il est très calme, il a tous les micros. « Je suis désolé des problèmes que ça peut poser aux personnes. » Vous voyez, il est plein de compassion, il est désolé. Mais le problème de fond, c'est la différence de coût de revient pour un certain nombre de métiers, dont la confection entre la France et nos voisins d'Europe. Bon, moi, au fond, j'étais assez d'accord avec Bernard Arnault. Je pense que c'est logique, effectivement. Voilà, c'est moins cher là-bas. Bon, ben voilà, il fait comme ça, c'est moins cher. Bon, mais ça, c'est le genre d'argument économique qui ne convainc pas complètement Marie-Hélène Bourlard, qui donc continue à lui hurler dessus. Vous continuez à être délocalisé dans les pays de l'Est. Il y a 147 salariés qui sont là. J'aimerais que vous les voyiez, que vous osiez les voir là, dehors, en face, et leur dire « je ne veux plus travailler avec vous ». Bernard Arnault, il ne sort pas de la salle. C'est triste. Est-ce que Kenzo doit être le seul sur le marché international à payer ses costumes le double du prix que payent ses concurrents? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'actionnaire de LVMH? Alors moi, je ne suis pas responsable, si vous voulez, des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Bon, la scène continue comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'avais fait venir une autre déléguée de la Samaritaine. Moi, j'avais un copain qui était assez grand et qui était plus âgé que moi, qui pouvait passer pour un député. Enfin, on a improvisé ça sur le coup, parce que sinon, on se faisait jeter manu militari. Mais quand je lui ai dit que le gars était député et que moi, j'étais son assistant, d'un seul coup, les vigiles, ils ont fait un pas en arrière et ils ont commencé à faire gaffe. Bon, voilà un peu. Bon, et finalement, il y a eu, on va dire, une amélioration du plan social. C'est pas l'idéal, mais il y a eu un certain nombre d'emplois qui ont été conservés. Donc, ayant vu ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme truc. La confrontation du capital et du travail en direct, ça a son charme. L'année d'après, on est retourné en nager de casino. Alors, casino, Jean-Charles Naouri étant le financier qui a libéralisé la finance en France sous l'ère Bérégovoy dans les années 80, Birégovoy étant ministre de l'économie. Ensuite, il avait fermé Moulinex. Et puis, enfin, là, il maltraitait des gérants de petits casinos. Donc, on a rassemblé tous les mécontents. Et puis, on allait le prendre par surprise. Il a fui à la fin de l'Assemblée générale parce qu'il n'était pas content. Il est parti en claquant la porte. Et puis, tout ça, ça veut dire que lors de sa fête à lui, l'Assemblée générale, c'est quand même leur fête, on n'était pourtant qu'une petite dizaine. Et on avait réussi à le mettre sur la défensive. À tel point, il a tellement été sur la défensive qu'il nous a fait un procès, enfin un à France Inter et un à Fakir, que finalement il a abandonné en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'on y est retourné l'année d'après. Alors là, il n'y avait plus d'effet de surprise. C'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on y arrive par effet de surprise. Il ne faut pas que ça soit publiquement annoncé, parce que là, il y avait un vigile tous les 3 mètres. Et entre les vigiles, il y avait des huissiers avec des caméras qui filmaient tout ce qu'on faisait. Donc ça rendait quand même nos mouvements un petit peu plus compliqués. On avait assuré un petit peu de pagaille. Moi, je suis sorti de là en disant, bon, on a perdu, quoi. Ils avaient vraiment tout été verrouillé. Donc on a eu beau chanter une internationale adaptée pour les petits actionnaires. Ça cafouillait. Mais néanmoins, ils se sont sentis merdeux. Et ils ont abandonné notamment les procès. Ils ont fait des offres à un certain nombre de petits gérants et tout ça. Bon. Donc là, pour nous, maintenant, ça fait 3 fois qu'on l'a fait. Avec de manière microscopique. Il s'agit de le généraliser, mais que les prochaines actions, on ait davantage le rapport de force en notre faveur, qu'on arrive à avoir l'effet de surprise et le rapport de force, c'est-à-dire qu'il y ait plus de petits actionnaires qui se trouvent à l'intérieur de l'Assemblée générale. Et donc, c'est là que je compte sur vous. Là, on est en train d'organiser pour qu'effectivement, on soit une cinquantaine, une centaine, parce que vous savez, s'il y a un groupe de 50 ou 100 personnes qui sont déterminées et qui savent ce qu'ils veulent faire dans une assemblée comme celle-là, elles l'emportent sur le lot des oscillants, quoi. Donc, je vais, ceux qui veulent, ceux que ça intéresse de devenir actionnaire, alors pourquoi on commence la campagne en janvier ? Alors, est-ce que vous allez gagner ou perdre de l'argent ? En fait, c'est la seule question qui vous intéresse. Si, je sais. Alors... Acheter une action et revendre une action, ça coûte des sous. Il vaut mieux les acheter par paquet de 100, vous voyez ? Mais c'est bon, voilà. Donc, vous allez perdre des sous. Donc, a priori, vous allez perdre un petit peu. Mais en vérité, vous allez y gagner parce que le jour de l'Assemblée générale, ils font des cadeaux. La première année, chez LVMH, on a eu le droit à une petite bouteille de champagne, moitié Chandon. C'est quand même pas mal. Et chez Casino, 2 années d'affilée, on a eu le droit à des bons d'achat de 25 euros. Vous voyez ? Pour aller dans les petits casinos. Donc, de toute façon, ça sera pour vous une opération rentable. J'insiste sur ce point. Voilà, il y a déjà un preneur. Je vous assure que je n'ai jamais été en offrande au grand capital jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je vous assure qu'ils n'ont pas, ils ont pas eu le sentiment que... Oui, bah, très bien. Bon, moi, je dois dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, il y a un plaisir que je n'ai pas face à un ordinateur, c'est la gueule défaite de Jean-Charles Naouri ou Bernard Arnault. Et ça, c'est une satisfaction que, même des années après, je continue à porter avec un sourire, non pas de martyr, mais de réjoui. Vous voyez ?
Oui, vous n'avez pas de micro. On va juste laisser François Ruffin finir ce qu'il avait commencé à expliquer.
Aussi
Je ne sais pas si François voulait finir sur le SIAG.
Les papiers sont là pour ceux qui veulent commencer à devenir actionnaire aujourd'hui. Si je peux entamer votre conversion au grand capital, les papiers sont là. Et donc nous, dans les semaines qui viennent, on vous enverra les infos sur les AG de manière postale, mais sur les AG qui sont choisis et sur le moment. Voilà, sur les moments où elles se dérouleront.
Il faut juste savoir que c'est une feuille de renseignement pour ensuite que François Ruffin et le SIAG vous expliquent la démarche pour y adhérer. Je vous propose de prendre une dernière série de questions, 4 ou 5 maxi, parce qu'après on a déjà l'Agora va fermer. Après on a la galette, on boit un coup, j'espère que vous resterez nombreux, et puis il y a François qui rentre dans le Nord. Je suis désolé, j'ai trouvé que ça, j'ai pas je dois avouer que il y avait une première question là, et puis on continue.
Oui, vous n'avez pas parlé du front de gauche. Alors en fait la question c'était parce que là j'ai vu passer une note sur le vote ouvrier, et on voit que le front de gauche n'a pas du tout pénétré le vote ouvrier. Et ça me ramène à mon leitmotiv sur l'euro, parce que par ailleurs, il y a des études qui sont faites, et on voit très bien que les ouvriers sont très très réticents à l'euro. Enfin, c'est pareil. Et d'ailleurs, pour les jeunes, c'est pareil. Les jeunes et les ouvriers, et c'est vraiment le point de clivage en fait essentiel. C'est le point de clivage politique essentiel, l'intégration européenne, l'euro. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas fuir ce débat-là. Et je pense qu'il faut, enfin, moi c'est mon hypothèse, peut-être que je me trompe, mais il me semble que investir sur la question de l'euro, c'est-à-dire sortir de l'euro, ça sera efficace politiquement, en particulier vis-à-vis des classes populaires. Voilà, donc un peu de la manière dont François Ruffin avait travaillé sur le thème du protectionnisme. Je pense qu'il avait eu beaucoup de réticence vis-à-vis de la petite bourgeoisie, alors que c'était un thème populaire parmi les classes populaires. Je pense qu'il devrait faire le même travail vis-à-vis de l'euro. Il aura la même réticence vis-à-vis de la petite bourgeoisie vis-à-vis de ce thème-là. Mais par contre, c'est bénéfique, ça sera porteur parmi les classes populaires. Et je pense que le front de gauche doit faire ce pas-là, évidemment, quitte à s'aliéner une partie de la petite bourgeoisie. Voilà.
Une autre question ?
On arrive. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions en tant que journaliste. Malheureusement, je ne connaissais pas bien ni vous-même ni vos émissions, mais dans votre démarche, pourquoi notamment ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes n'est pas répercuté par les médias, alors que par exemple on entend beaucoup parler de la manifestation de demain sur le mariage pour tous, alors que la semaine dernière à Notre-Dame-des-Landes il y avait 60 000 personnes dans les bois pour essayer justement de penser à un monde différent. Et ils sont en train justement depuis quelques temps d'essayer de penser autrement, avec notamment l'agroécologie, des choses comme ça. Pour ce qui est au niveau de l'argent, ce qui me choque dans les discussions qu'on a, c'est qu'en fait, on est des êtres humains, on est asservis par l'argent. Parce qu'on part de sortir de l'euro, mais est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de l'argent et redevenir humain et changer complètement de système? Parce que là, j'entends bien ce que vous dites, c'est très bien, puisqu'on essaie de résister à un système qui nous dépasse et qui nous oppresse, mais au lieu de chercher des solutions pour s'adapter à ce système qui est complètement injuste, pourquoi carrément pas envisager une sortie de système, enfin un système différent? Et notamment, l'austérité, c'est un mot pas joli et pas agréable. Voilà, la sobriété heureuse proposée par Pierre Rabhi notamment, qui est un agriculteur. Voilà. Il y a plein de choses qui sont à relier, notamment les indignés. Par exemple, les médias n'ont pas beaucoup relayé les indignés là, en 2011, parce que pour répondre au monsieur, en Grèce, en Espagne, je connais un peu l'Espagne, en Grèce, en Espagne, au Portugal, il y a beaucoup d'événements actuellement encore. Beaucoup de gens qui essaient de se concerter, ils ont été oppressés par la police. Mais donc il y a beaucoup de choses. Et au niveau des médias, ça ne se retranscrit pas. Il y a un manque d'informations. Alors est-ce que les médias ont peur d'aller sur ce terrain-là? J'imagine que oui, puisque ne serait-ce que la comparaison entre la manifestation de Notre-Dame-des-Landes et la manifestation de Paris demain, on nous rabâche les oreilles avec ça pour demain, alors que pour Notre-Dame-des-Landes, je ne sais pas qui a entendu parler du concert de la semaine dernière à Notre-Dame-des-Landes, qui a réuni 60 000 personnes. Voilà, merci. Mais bon, bref, en tout cas, pour vous dire que peut-être que rien qu'au niveau des médias, l'information devrait circuler autrement. Et est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes sensible à la démarche de changer le système dans le sens ne plus passer même par la par l'élection, puisque les, quelque part vous cautionnez les élections. Voilà. Et est-ce qu'il ne faudrait pas relancer la démocratie plutôt que la croissance? Voilà, petite dernière question. Merci.
Oui, alors moi j'avais un commentaire qui est relatif à ce qu'avait dit une dame du fond sur les banques. C'est que là, en ce moment, il y a un projet de loi qui est discuté au Parlement sur la réforme bancaire. Et ça va être voté en février. Et du coup, il se trouve que ce qui est proposé, déjà, je ne suis pas technicien de la banque, donc je ne pourrais pas forcément dire, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait à la hauteur. Disons que le critère choisi pour la séparation des activités bancaires est très flou parce qu'on on envisage ce qui est utile ou non à l'économie, donc c'est quand même très subjectif. Et moi, à mon avis, ça c'est un des rendez-vous, en fait, ça devrait être un des rendez-vous des forces qui s'intéressent à ces questions-là, en fait. Et le problème, c'est que c'est vrai que moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et même un type comme Mélenchon, quand je l'entends dans les médias, j'ai pas le sentiment que c'est l'heure pour lui de faire quelque chose là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que, en gros, c'est ce que propose le Front de Gauche, c'est la séparation des banques de dépôt des banques d'affaires. Ce qui me semble intelligent.
Oui, je voulais savoir, on parle de sortir de l'euro. Je voulais savoir si on revient au franc. On dit qu'on veut sortir de l'euro. Est-ce qu'on revient au franc ?
Oui, bonjour, je m'appelle Romain Tréposé, je suis pas du Front de Gauche, je suis militant du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, mais finalement, tout cela a peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la multitude, je pense, de choses, de propositions, l'attention sur Notre-Dame-des-Landes, la volonté ou l'idée de créer une banque locale. Sur Nanterre, il y a un truc qui s'appelle Séan, que beaucoup ici doivent connaître. Il y a des AMAP. Voilà. Moi, je suis à fond pour tout ça, parce que c'est de la réappropriation par nous, par les citoyens, de nos vies quotidiennes. Et je pense que dès aujourd'hui, on bâtit le monde que j'espère, le monde de demain, dans lequel on aura réussi à arracher le pouvoir que aujourd'hui la bourgeoisie s'arroge. Simplement, toutes ces petites luttes nous laissent finalement désemparés face aux décisions politiques majeures, face aux grandes décisions. C'est encore Bernard Arnault qui commande. Alors, je suis bien d'accord qu'il peut se barrer. Je suis bien d'accord que tous les capitalistes peuvent se barrer. Depuis que l'argent qu'on échange, ce n'est plus des pièces d'or ou des pièces d'argent, mais c'est uniquement ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire un équivalent, il est bien clair que les richesses, ce sont les biens, ce sont les services que nous produisons, nous, et non pas eux. Donc ils peuvent bien partir au fin fond de la Russie, se faire offrir des datchas ou aller aux États-Unis, ils n'emporteront pas le capital, le vrai capital, les moyens de production. Mais cette question de réappropriation des moyens de production, elle se pose vraiment au travers d'échéances politiques, au travers d'actes très importants. Alors il y a un petit débat là qui a été amorcé sur la question de sortie de l'euro. Est-ce que c'est mieux de se battre pour la sortie de l'euro ou est-ce que c'est... De toute façon, si on se bat pour la sortie de l'euro, on voit bien que c'est quelque chose où la sortie des critères de Maastricht, etc. On voit que les niveaux d'affrontement sont extrêmement importants. Ça nous met face à la bourgeoisie en frontal. Alors est-ce que c'est malin, pas malin de demander la sortie de l'euro, est-ce que ça va développer le chauvinisme et finalement favoriser l'extrême droite? C'est des choses qui peuvent être débattues. Par contre, la nationalisation des biens de production, qui a été évoquée par mon camarade Jacques tout à l'heure, la nationalisation pas au sens où c'est provisoire et puis on les rembourse, pas au sens où on les fait passer entre les mains de technocrates qui vont être exactement comme les bourgeois, mais au sens où nous, les travailleurs, on va les gérer, les diriger nous-mêmes, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Alors, bon, pour le NPA, on a une revendication en matière de finances. Hein. On propose la collectivisation, la nationalisation de l'ensemble du secteur financier. Pas seulement d'une partie, parce que ça veut dire qu'on continuera à être en opposition entre un secteur nationalisé et un secteur privatisé. Et du coup, on connaît le système, le secteur nationalisé serait obligé d'adopter les mêmes critères. Non, on propose tout simplement la nationalisation de manière à ce que le crédit sur l'investissement, il se porte exclusivement sur des investissements qui ne soient pas générateurs de licenciements et qui soient producteurs de produits qui soient socialement utiles aussi. C'est aussi un critère de l'investissement, c'est qu'ils soient socialement utiles.
Merci. Donc, c'était le programme du NPA. On va redonner la parole à François une dernière fois. Ce n'est pas forcément à la fin du débat, parce qu'on boit un coup derrière. Donc, si vous voulez venir le voir en vrai, lui parler et tout, il sera là. Il ne sera pas très loin des bouteilles de cidre, à mon avis. Je vous reprécise juste aussi que vous avez à la sortie une table avec plein de documentation sur Attac, sur les sujets dont on a parlé, quelques petits livres, il y a pas mal de choses gratuites, il y en a aussi que vous pouvez acheter. Idem, vous avez une table avec les livres de François Ruffin, quelques numéros de Fakir, je crois que c'est deux pour le prix d'un aujourd'hui. Voilà. Et donc je repasse la parole. Jean-Louis Michniak s'est signalé, donc président de Data 92. Je le remercie d'être là, tout comme Eric, l'ancien président Data 92. Et juste par rapport aux élus, voilà, il y a aussi Marc Becquet, qui est donc élu municipal d'opposition à Rueil. Il y a évidemment des bulletins d'adhésion pour Attac et pour le SIAG. J'ai vu aussi, je crois, quelque part, Madame Sylvie Cabasso, qui est maire adjointe aux associations à Nanterre. Je remercie, c'est pas juste pour remercier, c'est que j'estime que c'est extrêmement important que les élus participent aussi à ce genre de réunion, parce que c'est aussi là que se déroule la vie citoyenne. Je passe la parole à François pour la dernière fois.
Oui, alors ça va être vague. D'abord, je vais quand même commencer par une page de pub. Si vous voulez qu'on continue à produire des idées et qu'on s'efforce de les diffuser, nous ne vivons, et je ne parle pas que de Fakir, mais éventuellement d'un certain nombre de films que j'ai déposés sur la table derrière, nous ne vivons que grâce à vous pour l'instant. Donc j'espère que vous continuerez à être nombreux à nous faire vivre. Sinon, la production qu'on représente est amenée à disparaître. Donc je compte sur vous à la sortie aussi. Ensuite, oui ? Non. Est-ce que je suis sur Facebook ? Non, vous êtes informé, je ne suis pas sur Facebook. Est-ce que le journal est sur Facebook ? Oui, il doit y avoir quelqu'un qui tient un compte. Ouais. Ah, le journal, oui, il me semble qu'il y a quelqu'un, mais il y a des trucs que je m'applique à ne pas les comprendre. Facebook et Twitter, par exemple. Non, mais pour une raison qui est d'une raison organisationnelle, c'est que quand dans une petite organisation, vous avez fini par comprendre un truc, à un moment ou un autre, ça finit toujours par retomber sur vous de le faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais j'ai compris comment fonctionne Facebook, un jour où il va y avoir des trucs à mettre sur Facebook, on va me le demander. Tandis que tant que je ne sais pas comment ça fonctionne, il n'y a personne qui me demandera de le mettre. Vous voyez ? Sur Facebook ? À ne pas comprendre, oui. Voilà. Non, juste pour terminer le débat sur un point politique un peu moins commercial. De manière générale, je pense que si jamais l'Europe continue à s'enfoncer dans l'austérité, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a la nécessité que dans ce tunnel, à un moment, il y a une lumière qui s'allume. Je ne sais pas si elle s'allumera en Grèce, au Portugal, en Italie, en France. Bon, elle s'est allumée en Islande, mais c'était qu'une petite veilleuse en dehors de l'Union européenne, donc elle n'a manifestement pas fait assez d'étincelles. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière, entre guillemets ? Je relisais tout à l'heure un propos de Roosevelt,
Bon, il y a le propos de Danton, hein, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et je pense que si jamais on continue à s'enfoncer dans cette crise, à un moment, les solutions, elles doivent venir de l'audace et non pas de la résignation. Mais il y a ce propos tout simple de Roosevelt en 1932, donc en pleine crise. Le pays réclame, et si je ne me méprends pas son tempérament, il l'exige, des expériences hardies et continues. C'est le bon sens de choisir une méthode et de l'essayer. Si elle échoue, admettez-le franchement, essayez-en une autre. Mais par-dessus tout, il faut essayer quelque chose. On est dans un moment où, au contraire, on n'essaye rien. Et donc, essayer, ça veut dire mener des politiques hétérodoxes. Mener des politiques hétérodoxes sur le terrain éventuellement des nationalisations, du combat sur le terrain de la monnaie, sur le terrain du protectionnisme, sur le terrain des appartenances, à qui appartiennent les banques, et ainsi de suite. Mais il y a aujourd'hui, pour moi, au présent, compte tenu de la situation sociale, mais il y aura la nécessité d'essayer quelque chose. Et là, il y a dans la gauche un devoir d'expérience. Je ne parle même pas d'expérience socialiste et ainsi de suite, mais il y a un devoir d'essayer quelque chose. Et c'est aujourd'hui ce qu'on n'essaye pas. Alors, j'ai bien conscience, je ne réponds pas donc à la totalité des remarques, hein, de la fin, mais j'ai bien conscience d'intervenir aujourd'hui dans un moment creux de l'histoire, dans un temps de recul où on a plutôt l'impression que la vague, elle revient vers nous. Il y a un an, bon, monsieur n'appartient pas au front de gauche, mais il pouvait y avoir, moi j'ai eu un enthousiasme modéré pour ça, parce que je voyais bien que ça n'allait pas monter aussi haut qu'un certain nombre de militants espéraient que ça monte, cette vague. Mais enfin bon, il y avait un certain enthousiasme politique derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, derrière le front de gauche. Moi j'ai vu des jeunes arriver avec la politique avec enthousiasme à ce moment-là, et bon, c'était assez stimulant. On voit bien qu'on n'est plus dans le même temps de l'histoire. Je voudrais simplement vous rappeler les propos de mon héros personnel, un monsieur qui s'appelle Maurice Criégel-Valdrimont, qui est, pour vous le replacer, qui est l'un des libérateurs de Paris en août 1944, quand les Allemands, quand le maréchal von Scholtitz s'est fait prisonnier et que les Allemands capitulent à Paris. Il y a le général Leclerc qui est sur le tank et qui fait défiler von Scholtitz dans les rues de Paris, où évidemment la foule est en liesse. Et au fond, on aperçoit un petit monsieur à lunettes sur la Jeep, dans une photo qui est historique. C'est Maurice Criégel-Valdrimont, représentant, qui est là au titre de représentant des forces françaises de l'intérieur. Donc, que me dit Criégel ? Il est mort maintenant, hein, malheureusement. Je lui dis, écoutez, moi j'ai 30 ans. À 30 ans, vous libériez Paris. Moi, franchement, je dis, bon, déjà, on s'emmerde moins qu'on s'est emmerdé. Et il me semble que c'est vrai. Au fond, on vit des années politiques qui sont quand même intéressantes, où il y a des choses qui se passent. Pour ceux qui ont vécu les années 90, quand l'autre, Fukuyama, il annonçait la fin de l'histoire, il y avait quelque chose de pesant de ce côté-là, et on avait vraiment l'impression qu'ils avaient réussi à graver le libéralisme dans le marbre pour effectivement un paquet d'années. Là, il y a des choses qui bougent. Ça ne bouge pas forcément dans le sens qu'on souhaite, mais déjà, il y a des choses qui bougent. Mais surtout, que me dit Criégel ? Il dit, mais imagine-toi, En 1934, on fait une première manif avec les copains de la CGT contre les fascistes, parce que les fascistes sont au bord de renverser la République. Pourtant, c'est une République pourrie, corrompue, qu'on n'aime pas trop. Mais on y va, on descend dans la rue pour la défendre. Imagine-toi si j'avais dit à mes copains à ce moment-là, dans deux ans, il y aura le Front populaire, on aura les 40 heures et les congés payés. Mais ils mourraient rionnés. Ils mourraient rionnés. Mais ça, c'est rien. C'est rien. Imagine-toi en 1943, je suis en prison. À mes côtés, il y a Raymond Aubrac. On est à neuf dans une cellule qui est toute petite. Il y a Serge Ravanel. La cellule est tellement petite que quand l'un d'entre nous veut se retourner, il faut que tous les autres se retournent aussi. Mais si j'avais dit à mes copains, dans deux ans, même pas, dans un an et quelques mois, c'était avant Stalingrad, les Américains auront libéré la France, nous aurons libéré Paris nous-mêmes, nous mettrons en place un vaste plan de sécurité sociale, nous fonderons les retraites, nous nationaliserons des entreprises. Mais ce n'est même pas qu'ils m'auraient réuni cette fois-ci. Ils m'auraient envoyé en hôpital psychiatrique à peine sorti de la prison. Mais il me dit, toutes ces choses-là, elles ont été possibles parce que les hommes l'ont voulu et ont su ce qu'ils voulaient. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Ah. Merci à tous d'être venus. Merci à François Ruffin. N'hésitez pas à approcher. Venez pour continuer à discuter. Qu'on discute ensemble et qu'on boive un coup. On a des hôtesses. Vous avez toute la documentation à la sortie. Et puis, on a des hôtesses qui vont vous servir à boire. Ah, c'est surtout des hôtes. Hein, je suis désolé. N'hésitez pas à venir. Oui, pardon, c'est gratuit. Hein. Je n'avais pas précisé.
Au fond, c'est payant.
Au fond, c'est
dans l'OMC. Non, il y aura toujours, toujours faire des échanges. Là, il y a des règles de l'OMC qui sont très dures, pas avec nous, mais avec certains pays africains et tout ça.
Vous faites quoi?
Moi je suis cuisinier.
Cuisinier?
Je bossais à l'EADS justement, là, vous avez fait une requête.
Et où alors?
À Suresnes.
Vous avez un site
de l'EADS
à Suresnes?
Ouais, tout à fait. Et en fait, moi je suis un AMG en fait, de France Inter. Et maintenant, en fait, ça fait 20 ans.
J'ai juste oublié de vous dire aussi, vous savez, j'ai fait circuler les feuilles si vous voulez mettre vos adresses électroniques. En particulier pour ceux et celles qui veulent être tenus informés des événements et des réunions d'attaque ici à l'Agora. Je pense qu'il y a une feuille à l'entrée.
Les feuilles avec les noms, les feuilles avec les noms pour attaque.
Bonjour. Merci, c'est gentil d'être venu.
Merci.
D'être venu, c'est gentil.
Bah, je viens souvent. Hein.
Oui, mais.
C'est par le sujet, je pense.
Oui, bah, c'est bien.
Oui.
C'est bien.
Oui.
Ah, c'est bien.
Je me suis dit, c'est bien de venir voir. Voilà. Je connais.
Je partage énormément de choses.
Oui, oui. Mais l'intervenant qui a été le plus dur pour le PS est en fait un élu PS de Rueil. Donc il y a.
Un élu PS de Rueil, ouais. Qui serait sur la gauche du PS. Ça existe à Rueil?
Ben, ça n'existe plus parce qu'il a démissionné le mois dernier en fait. Voilà.
De quel dommage? Quel dommage, parce que moi je me sens un peu seul sur cette ligne.
Ouais.
Tous les gens qui disent oui, qu'est-ce que vous faites au PS, je dis même, je suis plus que seul, venez.
J'essaie de les tirer. Non, mais merci d'être venu en tout cas.
Non, merci d'avoir organisé.
Ouais, ben il faut qu'on se voit, il faut vraiment qu'on se voit.
On a déjà.
Oui, on se connaît.
Non, mais ah oui, bien sûr, je vais aller le voir. De toute façon, je pense qu'il va à la fête de la Rose tout à l'heure.
Ah, l'intervenant PS, hein, je peux vous le présenter. Ouais. Si vous et il faut qu'on se voit pour voilà.
Mais moi, c'est très facile de
nous parler. Oui, je sais. Non, mais on essaie de faire ça vite. Il y a la maire adjointe de l'association Jean-Pierre qui est aussi du PS et dans une municipalité, donc Roche Unie, et qui voulait te voir parce que elle dit je me sens un peu seul au PS à la terre. Oui.
Bonjour, c'est avec moi que tu as discuté par mail. J'ai créé le truc sur Demo.
Ah super, merci beaucoup. Non, bah, tu vois, il y avait du monde. Hein. Oh, ouais.
Bah, écoute, je sais pas.
Si, non, d'habitude.
La part des uns et des autres, mais. Bah,
non, mais.
Pour
l'instant, non. Non, elle n'est pas assez grande, mais il y en a deux petites. Mais super. Oui, c'est ce que tu me disais. Enfin, je crois qu'ils n'ont plus de verres, je vais leur rendre. Vous avez d'autres verres là ?
N'hésitez pas à vous faire lire. Et voilà, enfin, je fais d'autres petites choses. Et en plus, je fais une reconversion professionnelle parce que je suis développeur.
D'accord.
Et en fait, j'ai un peu le profil de Ruffin sur les questions monnaie et tout. C'est sujet auquel je m'intéresse. Mais bref, je me reconvertis dans le secrétariat de rédaction. La
d'accord,
presse
d'accord, ok. Donc, okay.
Forcément, je m'intéresse à ces trucs-là.
Voilà. Ok, bah, super, super. Et tu voulais adhérer à TAC, je crois ?
Oui, s'il y a un formulaire, je veux bien. Ouais.
Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut là-bas.
Salut, Michel.
Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc, plus ou moins, en fait, tout le monde se connaît ici.
Oui, bien sûr, il n'y a que des convertis.
Ah, c'est souvent un peu le problème.
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est parce que quand même, je vous dis qu'il y en a deux là, voilà. Il y a une autre casquette. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est tellement rare que des associations envoient des messages pour remercier que quand elles le font,
ah oui, ça change de sujet là.
Bah oui. Ah non, mais c'est.
Donc, lui, il écrit pour dire qu'il est très content, tout va bien, ouais. La salle, c'est super, il y a encore un petit problème à régler, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Merci beaucoup.
Oui, toujours, quand t'as l'agenda stand qui vient à 20h, j'ai 10 personnes qui attendent dehors parce que la clé marche pas, j'étais content que le personnel de stand vienne.
Pourquoi le service public, il est encore efficace.
Ouais. On espère. Ouais. Non, la puissance publique, s'il te plaît. Ouais. La puissance publique.
La puissance publique.
Voilà.
Non, mais il y a tout ce qu'il faut okay. Et si tu veux, moi je suis un peu tout seul et un peu ristrac supplémentaire. En fait, on a fusionné les groupes qui étaient auparavant Rueil. Il y avait deux groupes séparés, Rueil-sur-Aigne, Nanterre plutôt, grosso modo, avec d'autres villes, Chapeauté. Okay. Ça marchait pas, on a fusionné le tout. Mais il se trouve qu'on était trois animateurs il y a un an et qu'aujourd'hui je suis tout seul. Et donc c'est compliqué pour moi, d'autant que j'habite maintenant dans le 78. J'habite dans le 78 et donc voilà, je cherche des forces vives. S'il y a des gens qui ont envie de s'investir, pour un taxe, c'est le verbe espagnol. C'est une coquille pour faire ce qu'on veut.
Voilà. Tu vois, je m'en suis rendu compte parce que le mot d'ordre au départ, hein, c'était quand même la taxe Tobin, mais on voit que ça a passé par beaucoup de choses. Mais depuis 2-3 ans que je suis régulièrement à TAC, moi il y a un truc qui me paraît important, c'est l'éducation populaire, et je trouve qu'à TAC est très présente là-dessus, et c'est vraiment ce qui manque
pour
informer les gens.
On n'y arrive pas à l'être.
Mais moi j'essaie de faire le lien avec d'autres assos sur Nanterre, genre Nanterre UX, etc. Donc mon énergie, je la mets là-dedans, j'essaye de faire le lien, et j'y arrive, tu vois, j'ai croisé deux personnes à qui je discute par mail de Nanterre UX depuis des mois.
D'accord.
Voilà, moi si je peux aider, ça va plutôt être comme ça. Hein. Je participe au CA, je viens en réunion, on essaye de.
C'est déjà, c'est super.
Bon, bah, écoute, peut-être à une prochaine.
Alors. Ouais, mais avec plaisir. Avec, je pense.
De toute façon, t'as mon mail perso. Voilà, si tu veux me mettre dans des books ou dans des newsletters.
Oui, bah, je vais
m'inviter à des réunions.
Mais alors, comment est-ce que tu avais reçu le mail en fait? Tu l'avais reçu en direct
Par Jean et la rue, là.
Jean Letru.
Jean Letru.
D'accord,
voilà.
D'accord.
C'est par Jean Letru. En fait.
C'est le correspondant électronique du 92. Donc, il envoie. C'est le correspondant d'attaque.
Ouais.
C'est le chargé de communication mail de l'attaque. 92.
Du coup, j'ai vu la réunion d'aujourd'hui, je pense, par un de ses relais. Et comme il y avait ton mail, le mail.
Ok.
Donc, oui, il faut qu'on arrive à se rencontrer avec des gens comme ça. En plus, en ce moment. Non, mais je te monopolise pas, hein, ceci dit, mais voilà.
T'as très bien fait.
Et du coup, Séan, moi je trouve que notre association Séan, elle est un petit peu en difficulté aujourd'hui. Ouais. Elle passe vers Villes en Transition, mais il y a quelque chose à. C'est le moment de nous ouvrir. Enfin, moi, c'est ce que je défends au sein de Séan en ce moment.
D'accord.
Et donc, du coup, je suis preneur de partenariat.
Pas de soucis. On va le faire, ouais.
Okay.
Bon, je te mets dans la boucle de façon des personnes intéressées qui recevront tous les mails d'attaque.
J'ai mis mon mail normalement de façon sûre.
D'accord. Ouais, mais encore faut-il que je la retrouve parce que. Souvent, on s'était vu à.
On s'était croisé à la nuit des chiens de garde.
C'est ça.
Voilà. Marshall, et tu passais, t'avais l'air crevé, débordé.
Je suis toujours crevé, débordé.